Alléluia. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est fidèle. Si ton voisin de gauche ne comprend pas, change de voisin, dis à celui de droite, Dieu est fidèle. Si celui de droite est trop charismatique, alors dis à celui de derrière, Dieu est fidèle. Si même celui de derrière n'est pas digne de cette parole, alors dis-le à toi-même, Dieu est... Est-ce que quelqu'un peut acclamer la fidélité de Dieu? Père, nous te bénissons pour ce moment, cette occasion opportune que tu nous accordes de voir partager la pensée que tu as placée sur notre cœur. Donne-nous, ô Père, que cette parole, telle une semence, tombe sur des terres fertiles afin de porter de fruits pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la confiance qui a été renouvelée en notre personne, de ce que nous avons encore reçu la faveur et le privilège et la lourde responsabilité de voir apporter le message ce matin. Je tiens à adresser mes remerciements au pasteur paroissial, le pasteur Festo, ainsi qu'à tout son consistoire pour cette confiance que vous nous témoignez, cela nous va droit au cœur. Mais aussi recevez les salutations de mon pasteur, le révérend Bob Loualizo, de l'église Phil à Cité d'Exaucement, Goma. Recevez aussi les salutations de ma chère et tendre épouse, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Smith Tembea. Je suis un des pasteurs de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et un des pasteurs de l'église Phil à Cité d'Exaucement, ici à Goma. Pour ceux qui ont leur Bible, je nous invite à ouvrir dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 60, du 1er au 3e verset. Mais aussi pour ceux qui notent, notez Ésaïe 61, du 1er au 3e verset. Ésaïe 60, du 1er au 3e verset, la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Je prie que ce matin, que la gloire de Dieu apparaisse sur toi. » Je disais, je prie que la gloire de Dieu apparaisse sur toi, que sa justice soit ton partage, et que sa lumière éclaire tes sentiers. Le verset 3, « Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Le verset, le chapitre 61, le premier verset, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Le thème autour duquel nous allons partager ce matin, pour ceux qui écrivent, notez, une vie d'impact. Le thème de ce matin est une vie d'impact. L'impact est défini par le dictionnaire comme entrer en collision, heurter, percuter. Dans un sens figuré, cela veut dire avoir une influence, des conséquences, des répercussions sur quelque chose ou encore affecter, influencer ou toucher. Impacter a même d'autres synonymes comme frapper, affecter, influencer ou encore atteindre. Mais avant qu'on ne parle d'une vie d'impact, pour ceux qui écrivent, notez quelques vérités ou quelques éléments que nous enseignent, que nous arrivons à ressortir de ces deux textes que nous venons de lire. Premièrement, pour ceux qui écrivent, retenez que ces deux versets nous parlent de la lumière ou l'onction de l'esprit. Non seulement que ces deux textes nous parlent de la lumière et de l'onction, mais aussi de la disponibilité de la lumière et de l'onction pour chacun de nous selon sa vocation. Ce texte nous présente une lumière disponible, une onction disponible pour chacun. Deuxièmement, toujours pour ceux qui écrivent, ce texte, mes frères, nous révèle la disposition, l'attitude appropriée pour recevoir cette lumière. Et c'est se lever, se disposer, l'accepter pour la recevoir et la manifester. Il est une chose que d'avoir une lumière disponible. Il est une autre histoire que de jouir de cette lumière. Si nous n'arrivons pas à faire ce qui s'impose pour la recevoir et la manifester, nous resterons des témoins passifs de la grâce que le Seigneur nous accorde. Troisièmement, cette lumière ou cette onction disponible pour chacun est donnée pour un but bien précis, pour une mission. Elle n'a pas été donnée pour qu'on paraisse aux yeux des hommes. Elle n'a pas été donnée pour mettre l'homme en avant. Elle a été donnée pour une mission. Et cette mission, c'est le service. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne fait jamais les choses au hasard. Et il ne nous donne jamais ce qu'il nous offre pour juste le plaisir de nous les offrir. Premièrement, il nous les accorde afin qu'on serve, qu'on devienne des serviteurs. Pour ceux qui écrivent, notez qu'il est important que quiconque veut impacter ou mener une vie d'impact de s'être au préalable exposé à un impact plus grand. Parce que un auteur a dit, ce à quoi tu t'exposes t'influence. Et ne peut influencer que celui qui au préalable a subi une plus grande influence. Nous sommes exposés pour impacter, afin d'impacter d'autres personnes. Nous sommes sauvés pour servir. Nous avons reçu l'onction pour servir. Nous avons reçu les talents pour servir. Ne peut éclairer que celui qui l'est déjà. Oh, combien veulent éclairer, mais eux-mêmes sont encore prisonniers des ténèbres. Quiconque veut éclairer dans sa génération doit d'abord lui-même être éclairé. Ne peut influencer cette génération que celui qui accepte de se distinguer d'elle. Je répète, ne peut influencer cette génération, ne peut influencer cette communauté, ne peut influencer sa famille que celui qui accepte de se distinguer, de se mettre au-dessus de la mêlée. Et nous allons le voir ensemble. Pour ceux qui écrivent, notez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'Église, nous, en tant qu'éclairés, nous avons pour mission d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit. C'est là pour deux raisons. Premièrement, afin que la vie de Christ se manifeste premièrement en elle. Et deuxièmement, afin que la vie de Christ se manifeste socialement à travers elle. Lorsque vous tombez sur un chrétien qui a du mal à manifester Christ au milieu de lui, dans son quotidien, la réponse est très simple. Le constat est très simple. Cette personne ne se laisse pas influencer par Christ. Parce que si nous voulons manifester Christ au milieu de nous, nous devons accepter de nous exposer à sa parole. Nous devons accepter de nous exposer à ses enseignements. Triste aujourd'hui de constater qu'est chrétien celui qui va tous les dimanches à l'église. Triste aujourd'hui de constater qu'est enfant de Dieu celui qui porte sa Bible. Triste aujourd'hui de constater qu'est serviteur celui qui, comme moi, se met sur un pupitre et se met à enseigner l'évangile. Ça n'a rien à voir. Il est possible de venir à l'église tous les dimanches et de ne pas connaître le Seigneur. Aide-moi à poser à ton voisin la question, est-ce que tu connais le Seigneur? Je vois quelqu'un sourire, bon, laisse ce voisin-là, pose à l'autre, est-ce que toi tu connais le Seigneur? Es-tu chrétien du dimanche ou l'es-tu dans ton quotidien? Parce que c'est là la vraie question. Si nous voulons exposer les autres, avons-nous nous-mêmes été exposés? Si nous voulons interpeller les autres, avons-nous nous-mêmes vu la paille qui est dans notre œil avant de constater la poutre, la maison, le chevron qui est peut-être dans l'œil du voisin? Alléluia! Alléluia! Une autre mission de la lumière, de l'onction, ou le deuxième aspect du service de la lumière, c'est qu'elle est donnée afin de confronter et de chasser les ténèbres. Confronter et chasser les ténèbres. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu ici présent, je le dis très souvent d'ailleurs, donner sa vie à Christ n'est pas un ticket qu'on reçoit pour des vacances à Dubaï. Non. Lorsqu'on décide de recevoir ou de donner sa vie à Jésus, de céder le contrôle, on s'engage dans une guerre qui a commencé avant qu'on ne naisse. Et on choisit son camp. Un chrétien dont les couleurs ne sont pas connues est un déserteur, tout simplement. Et l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de soldats qui veulent plaire à celui qui l'a enrôlé s'il s'embarrasse des choses de la vie. Et Christ même va plus loin, il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, je ne peux travailler à plaire à mon prochain au détriment de ma communion avec le Seigneur. » Être en accord avec Dieu, c'est par moments accepter d'être en désaccord avec les hommes. Et quiconque cherche l'unanimité tombera dans la compromission. La lumière chasse les ténèbres, synonyme de mort, de confusion et de trouble. La lumière apporte de la chaleur, synonyme de vie. La lumière augmente la vigilance. Lorsqu'il y a assez de lumière, on sait voir clairement que c'est un câble. On sait distinguer un câble d'un serpent, n'est-ce pas? Remarquez, lorsqu'il fait très sombre dans la chambre, vous pouvez facilement confondre votre veste à un homme assis qui n'a pas de jambes et vous êtes convaincu que la personne vous voit. Le premier réflexe n'est pas de rentrer dans sa couverture. Le premier réflexe est de récupérer le téléphone qui très souvent n'est pas loin de nous. Pas appeler quelqu'un, mais allumer sa torche. Pourquoi? Parce que la lumière chasse la confusion. La lumière nous permet de discerner le vrai du faux. Je viens dire à quelqu'un, tu marches dans la confusion parce que tu ne veux pas te servir de la lumière à ta portée. Et la lumière est une personne, c'est Jésus. La lumière donne de l'énergie. Nous recevons cette onction, nous avons été éclairés afin de servir les autres, répondre à des besoins. Lorsque Dieu veut faire du bien à une nation, il lui accorde des hommes de qualité. Lorsque Dieu veut faire du bien à un homme, il lui donne des hommes de qualité. C'est ainsi, même lorsque Dieu devait pourvoir aux besoins du ministère de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Luc 8:2, il lui a donné des femmes de distinction qui faisaient quoi? Qui arrivaient à pourvoir à ce besoin. Quand Dieu veut faire du bien à un homme, il lui donne des hommes de qualité. Ma prière pour nous ce matin est que Dieu fasse de nous aussi des hommes de qualité. Au-delà du fait qu'il nous donnera des hommes de qualité, qu'il fasse de nous des hommes de qualité. Alléluia. Servir le zoo. Servir sa communauté. J'estime que les frères et les sœurs ici présents, en ces lieux, il n'y a pas de tricheurs. Il n'y a pas de corrupteurs, il n'y a pas de corruptibles, il n'y a pas d'hommes et de femmes qui vivent avec un conjoint qui ne lui appartient pas. Alléluia! Pas ici, dehors. Ici, non. Jésus revient, nous irons tous au ciel. Alléluia! Et le voisin qui ne l'a pas encore rencontré le rencontrera ce matin. Le Congo est un pays très, très religieux, très chrétien. Mais un homme de Dieu a dit, nous avons prié, nous avons bâti des hôtels, le président a même prié dans un stade bombé, il a dédié le pays au Seigneur, Si les choses ne changent pas, c'est que le problème est ailleurs. C'est que le problème est... Je viens dire à quelqu'un, la prière ne change pas une nation. Non. La prière influence les décisions des dirigeants. Et ce sont les décisions des dirigeants qui changent une nation. Mais si ces dirigeants-là, c'est toi, frère avec nous dans le Seigneur, je viens dire à cet homme, à cette femme, qui est censé être une grande bénédiction pour cette nation, pour ce pays, pour cette église, mais qui ne l'est pas par égoïsme, le Seigneur ôtera cette lampe qu'il a placée sur toi et il la donnera à quelqu'un d'autre. Parce que personne n'est indispensable et aucun homme ne peut s'opposer au plan que le Seigneur a pour cette nation. J'entends quelqu'un dire amen. Pour ceux qui écrivent, notez, quelques vérités relatives à l'impact. Premièrement, l'impact a deux natures. Nous avons d'une part un impact positif, nous avons d'une autre part un impact négatif. Un homme a posé la question de savoir, de tous les hommes sur Terre, quels sont les hommes influents que vous connaissez? Nous étions à l'Institut biblique, les uns ont parlé de Jésus, d'autres ont parlé de... d'autres chefs religieux dont je préfère faire les noms, on sait mieux. Mais d'autres ont parlé d'un des grands tyrans et génocidaires que cette humanité ait connu, Adolphe. Les collègues ont réagi en disant non. Qui est-ce qui a dit qu'il était un leader ou il était influent? L'enseignant nous a fait comprendre, effectivement, ce gars a eu un impact considérable sur sa nation, au point qu'il a été en mesure de convaincre l'Allemagne que nous pouvons conquérir le monde. Était-ce un impact positif, un impact négatif? Quelqu'un a dit, c'est relatif. Tout dépend de celui qui subit cet impact. Deuxièmement, pour ceux qui écrivent, notez, l'impact diffère. Nous n'aurons pas tous le même impact. Ça, il faut qu'on se le dise. L'impact diffère d'un individu à un autre, d'un appel ou d'une vocation à une autre, d'un lieu à un autre, d'un domaine à un autre. Nous n'aurons pas tous le même impact parce que Dieu a reparti à chacun selon sa grâce, selon qu'il a voulu. Chacun a reçu une portion de grâce. Mais notez, mes frères, que bien que nous n'aurons pas tous le même impact, nous n'aurons pas tous le même degré d'influence. Nous sommes tous appelés à avoir de l'impact. Quel que soit le lieu de ton appel, quelle que soit la nature de ton appel, quelle que soit ta vocation, quel que soit le domaine de l'exercice de ton appel, tu es appelé à avoir de l'impact dans ton domaine. Parce que à ta vie, à ta sphère d'influence, sont attachés des hommes qui doivent marcher à ta lumière. Alléluia. C'est lorsqu'on tombe qu'on se rend compte du nombre de personnes qui apprenaient de nous, qui s'inspiraient de nous. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'église, mais c'est lorsqu'un frère est suspendu qu'il constate sa popularité. C'est lorsqu'un pasteur tombe et que sa chute est publique qu'il se rend compte qu'il était connu. Je viens dire à quelqu'un, ne chute pas pour évaluer ta popularité. Quand tu dis d'avancer, les résultats te le révéleront. Nous sommes tous appelés à avoir de l'impact. Parce que Christ dit que vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Puisque nous sommes tous de lumière, nous sommes appelés à briller. À briller. Une autre vérité relative à ce deuxième point, ce que nous ne brillerons pas tous avec le même éclat. Nous ne brillerons pas tous de la même manière, avec la même intensité, mais nous sommes tous appelés à briller. Chacun dans son domaine doit briller. Cependant, vous remarquez, mes frères, le verset 4, le verset 15 de Matthieu chapitre 5, dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle fait quoi? Elle éclaire. Elle a de l'impact. Elle est utile. Elle influence tous ceux qui sont dans la maison. Ma prière pour toi ce matin, vous l'ai-je dit, est que tout obstacle qui t'empêchait de briller dans ton domaine tombe au nom de Jésus. Ma prière pour toi ce matin est que durant ce séminaire, que tu découvres les principes, les vérités qui te permettront d'avoir non seulement de l'impact, mais un impact qui dure dans le temps au nom de Jésus. Parce que l'ennemi, la chair, le monde ne nous laisseront pas briller. Que Dieu te donne de briller dans ton quartier. Que Dieu te donne de briller dans ta maison. Que Dieu te donne de briller dans ta famille. Il y a de ces hommes ici qui doivent briller dans leur milieu de travail. Et quand je parle de briller, je ne parle pas que de promotion, de réussite et d'avancée. Je parle de distinction dans la position que nous occupons déjà. Que les gens s'interrogent, mais n'as-tu pas des ambitions? Si, si. Mais pourquoi tu n'acceptes pas de faire comme les autres? Parce que je sais que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite. En d'autres termes, celui qui t'introduit quelque part est capable de t'imposer, de te distinguer et de t'élever à cet endroit. Je viens dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Tu veux briller dans ce que tu fais, il y a un prix à payer. Et tel sera le grand sujet autour duquel nous serons en train de tourner durant toute cette semaine. Le prix à payer pour une vie d'impact. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Église a perdu de son influence? L'Église a perdu de son autorité parce que l'Église a hypothéqué son impact pour un profit terrestre. Profit. Pour un moment de plaisir, pour un moment de jouissance, pour un moment de gloire, nous avons hypothéqué l'impact et nous le verrons. Que Dieu nous donne plus d'impact, plus d'influence pour sa gloire au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, tu diras Amen. Troisièmement, pour ceux qui écrivent, l'impact n'est pas facteur de la position qu'on occupe. Ça, il faut oublier. Oh non, si j'étais le directeur, j'aurais eu plus d'impact. Si j'étais le pasteur, j'aurais eu plus d'impact. Si j'étais le parent de cette maison-là, j'aurais eu plus d'impact. Je viens dire à quelqu'un, l'impact n'est pas facteur de la position qu'on occupe, mais de la faveur qu'on a reçue de Dieu pour accomplir ses desseins. Il est possible de ne pas être le directeur, mais avoir un impact, une influence sur ceux qui nous entourent au milieu du travail. Et vous remarquerez, mes frères, que les chefs syndicats, les responsables syndicaux ne sont pas des DG, c'est des employés, mais qui ont une influence sur les autres, une influence sur la société. Que Dieu nous donne des délégués influents, mais aussi des délégués intègres. Parce qu'un délégué, nous pouvons tous le devenir, vous savez ça? Le problème aujourd'hui, on se bat pour ce poste, on se bat pour cette position, pas parce qu'on veut porter la voix de nos frères, mais à cause de ce qu'on peut gagner, des sollicitations qu'on peut recevoir. Je sais qu'en ces lieux, il n'y a que des délégués intègres. Alléluia! Cependant, s'il n'est pas intègre et il dit Amen, il s'attire une lourde malédiction quand même. Que Dieu nous donne d'être influents. Et nous verrons qu'il y a un prix à payer pour obtenir l'impact, pour conserver l'impact et pour grandir dans l'impact. Il y a un prix payé. Mais l'impact n'est pas facteur de la position. Je peux influencer ma génération sans être le leader dans cette génération. Non. Cependant, l'impact qu'on a sur notre génération peut nous propulser à la position des leaders. Peut nous propulser à la position du numéro 1. Alléluia. David n'avait pas le trône, mais il avait l'impact. Et l'impact l'a imposé sur le trône. Que les résultats que tu produiras t'imposent dans ton domaine au nom de Jésus. Quatrièmement, pour ceux qui écrivent, je l'ai même déjà dit en passant, l'impact s'acquiert, croît et se conserve moyennant un prix. Mener une vie d'impact n'est pas pour le paresseux, n'est pas pour les émotionnels, les sentimentaux. Il y a un prix à payer. Et parmi les prix à payer, mes frères, c'est la conviction. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui ne marchent pas par la conviction, qui marchent par les émotions et qui vont jusqu'à dire « Mungu nae, ni mutu, ataelewa. » Je viens dire à quelqu'un « Mungu, aiko mutu. Mungu, ni mungu. » Et il n'y a rien sur terre qui puisse justifier notre compromission. Rien. Si l'Église veut retrouver son impact, il est important de comprendre comment croître dans cet impact, comment retrouver cet impact et comment conserver cet impact et quel est le prix à payer. Cinquièmement, pour ce qui est écrit, la compromission réduit l'impact ou plus encore, tue l'impact. La compromission réduit ou tue l'impact. Je répète, la compromission réduit ou tue l'impact. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais vous remarquerez qu'il y a de ces hommes qui, lorsqu'ils chutent, lorsqu'ils refusent de se répentir, lorsqu'ils refusent de revenir au Seigneur, ils ont peut-être la même position, mais ils ont perdu l'impact qui allait avec la position qu'ils occupaient. Saül est un cas flagrant. Il a perdu l'impact à cause de sa désobéissance. Mais Dieu ne lui a pas ravi le trône du jour au lendemain. Dieu a donné et le trône et l'impact. Et nous constatons cela lorsqu'ils reviennent tous du champ de bataille. Les femmes poussées par quel esprit? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, qu'elles se sont mises à chanter. Saül a tué ce 1000. David a tué ces 10 000. En d'autres termes, David a plus d'impact sur le champ de bataille que le roi lui-même. Et Saül s'est dit, Allah, il a déjà les louanges. Eh bien, tout ce qui lui reste, c'est le trône maintenant. Je viens dire à quelqu'un, aucun homme ne te renversera à cause de l'impact que Dieu te donne. Parce que lorsque nous lisons dans 2 Samuel, le chapitre 17, du 1er au 17e verset, nous constatons une histoire merveilleuse. Il s'agit d'un roi et de 2 conseillers. Je disais, 2 rois 17, 1 à 17. Il s'agit d'un roi et de 2 conseillers. L'un est appelé Achitophel. Qui est Achitophel? Achitophel est un conseiller extraordinaire du roi. À tel enseigne que 2 rois 16, 23 le décrit comme... La Bible dit, les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité. La Bible les décrit comme ayant autant d'autorité que si on eût consulté Dieu lui-même. En d'autres termes, quand Achitophel parlait, c'était comme si c'était un prophète, un ainsi dit l'Éternel. Et voilà ce qui se passe. C'est qu'il donne un conseil à Absalom qui vient de détrôner son père. Un conseil militaire extraordinaire, d'une sagesse, d'une stratégie terrible, d'une intelligence machiavélique. Mais ces jours-là, Achitophel n'a pas été entendu. Parce qu'un autre conseiller, qui celui-là est ami de David, a trouvé faveur auprès du roi qui est devenu ennemi de David. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? J'ai dit, lorsque Dieu donne de l'impact à quelqu'un, il impose même là où personne ne trouvait sa place. Je répète, lorsque Dieu impose quelqu'un, lorsque sa faveur est sur un homme, il se retrouve sur une table, sur la même table, en face de ses adversaires, en face de ceux qui ne voulaient pas de lui à cette table, en face de ceux qui faisaient tout afin que la porte ne s'ouvre pas. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu est le maître des ouvertures. Si cette porte est fermée, il est capable de créer une autre ouverture. Si toutes les portes sont fermées, il est capable de fendre la toiture pour te créer une ouverture. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et c'est ce que Dieu a fait afin de conserver la vie de son serviteur David. Le conseil d'Achitophel a été rejeté par celui de Hushaï. Et la Bible nous révèle clairement que lorsque Dieu fait briller sa lumière sur un homme, il lui donne de l'éclat et les hommes le cherchent. Ce qui te manque, ce n'est pas un diplôme de plus. Malheureusement, c'est ce à quoi on croit. Si j'ai un diplôme de doctorat, non, je serai épanoui. Je connais un homme qui a bientôt 70 ans et qui recherche encore un diplôme de doctorat. Il est déjà docteur, mais il dit non, il faut que je devienne PhD. Baba. 70 ans, tu feras encore avec. Que vas-tu faire avec? Je viens dire à quelqu'un, il n'y a qu'en Christ qu'on ne peut s'épanouir. Il n'y a qu'en Dieu qu'on ne peut s'épanouir. Lorsqu'un homme n'est pas épanoui dans ce qu'il fait, c'est la preuve quelque part qu'il n'est pas au bon endroit. C'est la preuve quelque part qu'il ne fait pas ce qu'il faut. C'est la preuve quelque part qu'il s'est compromis. Alléluia. Lorsque Dieu approuve un homme, il lui donne non seulement de briller, mais il lui donne de l'éclat. Et ma prière pour nous ce matin est que Dieu nous donne de l'éclat dans tout ce que nous faisons. Qu'à ton nom soit attaché de l'éclat, qu'à ta personne soit attaché de l'éclat. Que les gens se posent la question, mais il n'a pas les qualifications requises. Qu'est-ce qu'il fait là? Dieu l'impose. Dieu l'impose. Et quand Dieu vous impose, il vous capacite. C'est ce que j'aime avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu impose ceux qui n'ont aucune intelligence. Non. Il nous impose, puis il nous capacite. Mais avec des méthodes qui ne sont pas forcément conventionnelles. C'est seulement quand le roi Saül est arrivé au bout du chemin et qu'il ne savait plus quoi faire, qu'un homme comme celui-là, de sa carrure et de son âge, a décidé d'envoyer un enfant de moins de 18 ans aller affronter un homme qui, depuis sa jeunesse, livre des batailles. Désespéré. Mais je viens de dire à quelqu'un, cette solution désespérée sera la provision de Dieu. Oui. Quand on posera la question, que fera-t-il? Que pourra-t-il? À quoi pourra-t-il bien être utile? Je viens de dire à quelqu'un, sois patient. Une opportunité arrive et tu ne te battras pas pour elle. Elle te cherchera. J'ai dit, elle te cherchera. Oui. Elle te cherchera. Lorsque Dieu nous donne de l'éclat, une autre vérité, c'est qu'il impose, il donne de la valeur à nos paroles. Un homme d'impact est celui dont la parole a de la valeur. Je viens dire à un frère, à une sœur, dont le Seigneur, si ta parole n'a plus d'impact, alors il y a un problème. C'est que tu as perdu en termes d'intégrité. C'est que les hommes ne te font plus tout simplement confiance. Mais je sais une chose, que Dieu est capable de te restaurer ce matin. Oui. Proverbe 21, le verset premier, la Bible dit, « Le cœur de l'homme est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. » Et j'aime la suite. « Il l'incline partout où il veut. » Tu n'as pas besoin de te compromettre pour avoir cette faveur. Tu as besoin de faire confiance au Seigneur. Et c'est Dieu qui est capable de donner de l'impact à un homme dont la vie semblait insignifiante. Je ne sais pas où tu habites. Je ne connais pas le nom de ton quartier. Peut-être que le nom de ta famille n'est même pas connu. Peut-être que tes études, tu les as faites dans une école qui suscite assez de doutes, même au niveau de l'inspection. On la laisse juste là parce qu'elle est utile pour une certaine catégorie de personnes dont tu fais partie. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est capable de t'accorder de l'impact si tu acceptes de lui faire totalement confiance. Et c'est là le prix aussi à payer. Alléluia! Remarquez, la plupart de ceux que Dieu a appelés dans le Nouveau Testament se référaient toujours à leur famille. Je suis le plus petit de ma famille, ma famille n'est pas connue. Qu'est-ce que nous avons accompli pour que tu m'appelles moi? Et j'aime ce qu'un homme de Dieu, un écrivain, a dit. Dieu n'appelle pas le qualifié, il qualifie ceux qu'il appelle. Il n'accorde pas de l'impact à ceux qui s'estiment capables. Il accorde de l'impact à ceux qui se confient totalement en lui. Il accorde de l'impact à ceux qui dépendent totalement de lui. Et s'il y a une chose qui manque à l'Église aujourd'hui, c'est cette dépendance totale à la fidélité de Dieu. Et le Seigneur me disait ce matin, alors que je revisais ce message, il me dit, il y a des lumières que je dois rallumer, des lampes que je dois rallumer et un éclat que je dois restaurer. Et je sais que tu es là ce matin. Depuis un temps, tu as le sens, le sentiment que ta vie a perdu en éclat. Tu as le sentiment que même les résultats de ton travail a perdu en éclat. Tu as le sentiment que tu as hérité d'un certain ténèbre qui couvre ta vie, ta grâce, à tel enseigne que plus personne ne comprend ce dans quoi tu es. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu est capable de te restaurer ce matin. Si tu fais ce qui s'impose, lève-toi et tu seras éclairé. Dispose-toi à cette fidélité et tu seras éclairé. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui se confient en lui. Je vais finir mon message avant de faire cet appel avec le verset 16 de Matthieu 15 qui dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres » et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. L'impact qu'il nous accorde est pour sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Mais avant tout, je voudrais particulièrement prier pour ces personnes dont le Seigneur m'a parlé ce matin. Tu es là et tu es convaincu depuis un certain temps que quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu as comme un ténèbre qui te couvre. Les choses qui marchaient hier ne marchent plus, effectivement. Tu as comme perdu en crédibilité, en confiance, à cause peut-être des erreurs du passé ou à cause peut-être d'un héritage spirituel. Je t'annonce une bonne nouvelle. La lumière est disponible si tu te disposes à la recevoir. Si tu es là et tu sens te réconcilier, tu es convaincu que tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu es convaincu que tu dois réclamer, demander, désirer cette restauration. Là où tu es, lève-toi et nous allons prier. Pendant que nous avons déjà nos têtes baissées, nous prions et nous disons au Seigneur, donne-moi l'éclat et donne-moi de briller. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Tu n'as pas besoin de t'élever avec le voisin, c'est entre toi et Dieu. Est-ce que les voix peuvent déjà commencer à s'élever et nous sommes en train de prier? Prie, prie là où tu es. Dis à Dieu, je veux briller, redonne-moi cet éclat, donne-moi cet éclat. Donne-moi de mener une vie d'impact. Tu étais un homme influent pour le Seigneur, j'insiste pour le Seigneur. Mais depuis un temps, quelque part, un bon jour, tu t'es compromis et tu as la conviction que la grâce est restée, le potentiel est resté, la connaissance est restée, mais l'impact a disparu. Si tu es là, tu hésites, lève-toi, on va prier, lève-toi. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Est-ce qu'on peut prier là où nous sommes? Peut-on prier? Que Dieu bénisse ceux qui continuent de s'élever. Prie là où tu es. Prie, dis à Dieu, je veux briller pour toi. Je veux briller pour toi. Je veux briller pour toi. Pour ta seule gloire, je veux briller. Dans ce domaine dans lequel tu m'as appelé, dans ce domaine, ce domaine de mon appel, je veux briller. Je veux briller dans ma famille. Il y a une différence entre la personne que j'étais avant de te rencontrer et la personne après t'avoir rencontré. Prie là où tu es, prie. Nous sommes tous concernés par cette parole. Es-tu un canal de vie pour les autres? Par toi, combien sont déjà venus au Seigneur? Je viens dire à un frère, si par toi, aucun homme n'est déjà venu au Seigneur, alors ton salut là, ta conversion, tu ne l'as pas encore compris. C'est pourquoi tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore compris. Nous ne sommes pas sauvés pour paraître, nous sommes sauvés pour aller sauver les autres, pour annoncer que Jésus sauve, pour aller annoncer que Jésus libère. Mais de quoi t'as-t-il déjà libéré, toi? Ô Seigneur, aie pitié de nous. Donne-nous d'être des astres qui brillent au milieu du ténèbre du péché. Donne-nous, ô Dieu, de mener une vie d'impact, pas pour notre gloire, pour ta gloire. Pas pour être vu des hommes, mais afin que tu sois glorifié. Que ceux qui sont debout disent à Dieu, restaure cet éclat que j'ai perdu. Restaure cet éclat que j'ai perdu. Restaure cet impact que j'ai perdu. Restaure cette influence que j'ai perdue. Oui, Seigneur, j'en ai besoin. Je reconnais m'être écarté du droit chemin. Aujourd'hui, je reviens à toi. Oui, que Dieu bénisse ceux qui continuent de s'élever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous donne de témoigner qu'il restaure. Que Dieu fasse de vous la preuve de ce qui ne peut arriver que dans la vie de ceux qui lui font confiance. Que Dieu bénisse ceux qui continuent de s'élever. Oui, tu fais bien de t'élever. La lumière, elle est là, elle est déjà arrivée. Tout ce que tu as à faire, c'est te disposer à la recevoir et dire, restaure-moi, Seigneur. Restaure cette lumière. Rallume cette flamme. Restaure et rallume. Au nom de Jésus, je vais prier. Père, ma prière ce matin, pour mes bien-aimés qui se sont levés particulièrement et pour toute l'assemblée en général, et que tu nous gardes fidèles à toi. Ma prière est que tu nous restaures, que tu rallumes cette lumière qui soit déjà commencé à s'éteindre, qui soit c'est déjà éteint à cause de la compromission. À cause du péché, de l'hypocrisie, à cause de la naïveté dans laquelle nous sommes tombés. Je prie que tu restaures mon frère. Je prie que tu restaures ma sœur. Je prie que tu nous fasses encore du bien. J'aimerais le dire comme Manoach, que l'ange qui nous a visités revienne encore. Que la faveur qui était notre partage revienne encore. Mais j'aimerais, au-delà de cela, le dire avec assurance comme Jérémie. Tes bontés ne sont point épuisées, elles ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ma prière au nom de Jésus est que tu renouvelles de ta faveur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, ces bien-aimés qui se sont levés par humilité, par conviction, afin de recevoir encore cette lumière qu'ils reconnaissent avoir perdue. Je prie, Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour ce pays, une bénédiction pour leur famille, une bénédiction pour cette église et le monde encore. Je prie, ô Dieu, pour cette parole. Je demande à ce que le Saint-Esprit poursuive avec le travail de suite, afin que dans le jour qui vienne, que l'on moissonne de fruits et en abondance. Au nom de Jésus, croyant que tu accompliras au-delà par la puissance de ton esprit et pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Peut-on acclamer le Seigneur?
Nous acclamons très très fort pour la parole.